l'importance de la paix. Et la paix la plus importante, c'est la paix avec Dieu. Parce que on parle beaucoup de paix intérieure, d'être en paix avec soi-même, dit-on. On recherche, pour beaucoup d'entre nous, la paix dans notre cœur. Mais en vérité, la Bible dit, il n'y a point de paix pour le méchant. Et le méchant dans la Bible, c'est pas celui qui est particulièrement méchant seulement, c'est surtout celui qui a la méchanceté de ne pas se réconcilier avec Dieu. Et cette paix que vous recherchez, si vous ne vous réconciliez pas avec Dieu, c'est une impossibilité. Alors on peut avoir un peu d'accalmie, un peu de yoga, un peu de promenade en plein air, un peu de bons moments pourront vous donner des temps d'accalmie. Mais il n'y a que Jésus qui donne la paix véritable, profonde et durable. Amen. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, a-t-il dit. Amen. L'Épître aux Romains dit, étant donc réconciliés avec Dieu, nous avons la paix par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, si vous n'avez pas, si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, dans votre vie, ne vous trompez pas, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu. Tout simplement. Quand on fait la paix avec Dieu, nous connaissons la paix de Dieu. Alléluia. Et la paix de Dieu ne peut pas se construire artificiellement. Alors, on le lit quand même dans Romains chapitre 5, verset 1er, ce que je viens de vous lire, de vous dire. Parce qu'il faut que votre foi soit fondée non sur ce que dit un homme, mais sur la parole de Dieu. Et la Bible est la parole de Dieu. Romains chapitre 5, verset 1er. Il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans ce passage, il y a Dieu et le Seigneur. Dieu le Père, le Seigneur Jésus-Christ. Pour avoir la paix avec Dieu, il faut être justifié par la foi. La Bible enseigne que si vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mort sur la croix à cause de vos péchés, si vous croyez que Jésus a été ressuscité d'entre les morts, alors vous serez justifié de tous vos péchés que vous avez pu commettre. Dieu vous pardonnera grâce à ce que Christ a accompli et à sa parfaite justice. Alors il est donc dit, étant justifié par la foi, la conséquence, nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. Réconciliez-vous. Soyez en paix avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'il veut se réconcilier avec vous. Parfois, on se demande, mais Dieu est très loin. Et avec tout ce que j'ai fait, ce n'est plus possible. Et comment pouvoir se racheter? Quelle bonne nouvelle, vous n'avez pas à vous racheter. Christ est mort pour vous racheter de la malédiction. Alléluia. Et il suffit de croire, de demander pardon à Dieu pour vos péchés et vous serez justifié. Merci Seigneur. On ne pouvait pas parler de paix sans commencer par ce préalable, être réconcilié avec Dieu, avoir la paix avec lui. Et pour nous chrétiens, c'est encore, même après des années de marche avec Dieu, le plus important. C'est d'être en paix avec Dieu. Et parfois, les difficultés de la vie peuvent nous faire oublier cette réalité que ce qui compte, c'est que nous soyons en communion avec le Seigneur, que nous soyons en paix avec lui. Des fois, nous pouvons ne pas ressentir cette paix, ne pas avoir la paix du cœur, mais être en paix avec Dieu. Et c'est ça qui compte. Amen. Je pense parfois, en tant que chrétien, nous recherchons parfois trop à ressentir la paix de Dieu. Mais ce qui compte, c'est dans la foi, comprendre que nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. Notre paix n'est pas un sentiment. Notre paix repose sur ce fondement par Jésus-Christ. Nous sommes en paix avec Dieu. Alléluia. Peut-être vous avez, cette semaine, eu des écarts. Mais est-ce que pour autant Dieu nous retire sa paix ? Faut-il à chaque fois nous réconcilier avec Dieu ? Nous avons été justifiés et nous croyons pouvoir dire être en paix avec Dieu par le nom de Jésus-Christ. Vous avez eu vos écarts, mais est-ce que vous avez cessé de croire en Jésus-Christ ? Non ? Alors si vous croyez en Jésus-Christ, malgré vos écarts, eh bien la Bible dit « si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. » Alléluia. Alors, parce que si notre paix dépend de notre irréprochabilité, elle va être fragilisée. Notre paix dépend de l'irréprochabilité de Jésus-Christ et non pas la nôtre. Amen. Nous sommes en paix avec Dieu parce que lui, il est parfait. Alléluia. Alors, la Bible enseigne aussi que l'on peut prier pour la paix. Lisons ce psaume 122, s'il vous plaît. Le psaume 122, versets 6 à 9. Psaume 122. Et j'aimerais, mon frère, ma sœur, te dire, même si tu passes par des moments difficiles, tu es encore en paix avec Dieu. Alléluia. Psaume 122, versets 6 à 9. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères, à cause de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Prions pour la paix. Amen. Prions pour la paix de Jérusalem. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, dit que l'Église est la Jérusalem d'en haut. Prions pour la paix de l'Église. Amen. Prions pour la paix de l'Église dans le monde entier et pour la paix de notre assemblée locale. Prions pour cela. Jérusalem veut dire ville de la paix. Et pourtant, le roi David dit « Je prie pour que la paix soit dans tes murs ». La vocation de Jérusalem, la vocation de l'Église, c'est la paix dans ses murs. Jérusalem était entourée de murailles. Il fallait qu'à l'intérieur de ces murailles, ce soit la paix. À l'extérieur, certainement, c'est la guerre, mais les murailles protégeaient de la guerre. Et quand il dit « Je prie pour que Jérusalem soit en paix », il prie pour que les ennemis ne traversent pas cette muraille, pour que l'adversaire ne vienne pas dans la ville. Ah, que l'ennemi, que l'adversaire ne vienne pas s'insinuer par des brèches, mais consolidons la muraille pour que la paix soit dans nos murs. Amen. Et il explique pourquoi. C'est à cause de la maison de Dieu. Parce que dans Jérusalem, il y avait le temple. Et le roi prie pour la paix de Jérusalem à cause de ce temple, à cause de la maison de Dieu. Et nous, si nous voulons prier pour la paix de l'Église, c'est à cause de la présence de Dieu aussi. Amen. C'est parce que Dieu est au milieu de nous. Et Dieu est un Dieu de paix. Un Dieu qui n'aime pas la guerre. Vous savez que David a soutenu les guerres de l'Éternel, il a fait l'œuvre de Dieu, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas pu construire le temple parce qu'il avait trop de sang sur les mains, il avait fait trop de guerres. Ce sera Salomon, le pacifique, qui pourra construire la maison de Dieu. Oui, je crois que notre roi prie pour la paix de notre Église à cause de son Père, notre Dieu, au milieu de nous. Je crois que Jésus-Christ prie pour notre paix. Amen. Alors, il nous faut accorder notre prière à celle de notre roi. Et quelle belle parole quand il est dit « à cause de mes frères, à cause de mes amis ». Jésus-Christ prie pour notre paix parce que Dieu est au milieu de nous, mais aussi parce que nous sommes ses frères et ses amis. Alléluia. Un roi appelle ses sujets frères et amis. Quelle grâce de Dieu. Déjà, du temps de David, il y a là en nombre la réalité qui est en Christ. Alors, dans 1 Timothée chapitre 2, on peut lire aussi qu'il ne faut pas seulement prier pour la paix de l'Église, mais aussi celle du pays et, dans un certain sens, du monde. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1er. Alors, le Seigneur a dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, et on sait bien que notre monde, parce qu'il n'est pas réconcilié avec Dieu, ne pourra pas jouir d'une véritable paix. Mais néanmoins, ce n'est pas une raison pour dire qu'il faut tout laisser aller. Dans 1 Timothée chapitre 2, lisons les deux premiers versets. Voilà ce que Paul enseigne aux chrétiens. 1 Timothée chapitre 2. « J'exhorte donc avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Ah, c'est un bon conseil, ça, remercier Dieu pour tout le monde, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. La parole de Dieu nous demande de prier pour les autorités afin que nous soyons en paix. Nous ayons une existence paisible. Peut-être que nous négligeons cela dans notre vie de prière, nous ne prions peut-être pas souvent pour nos gouvernants, pour nos responsables, mais l'apôtre Paul le demande, parce qu'il y a quelque chose d'évident, c'est que vous savez, dans les pays où il y a des guerres civiles ou autres, ben les chrétiens le payent cher. Et souvent, c'est encore pire pour eux que les autres. Alors Paul dit, priez. Devons soutenir par la prière nos responsables, nos gouvernants. Et cela est important parce que quelque part, cela va nous donner d'avoir un tout autre état d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a la guerre, la révolte dans les cœurs. Et on a ces chaînes d'infos 24 heures sur 24. Et ce n'est pas toujours édifiant d'entendre à chaque fois, contestations, contradictions, de toutes sortes. Et peut-être un croyant, un bien-aimé, passe trop de temps devant cette pollution audiovisuelle, que ce soit les chaînes d'infos en continu, que ce soit la toile, que ce soit d'autres sources, peu importe. Ne passons pas des heures à entendre sans cesse décrier les gouvernants. La Bible nous demande de les respecter, de les aimer et de les soutenir par la prière. Quelles que soient nos idées politiques, quels que soient nos votes, peu importe tout cela, quelles que soient les personnes qui sont en charge des responsabilités, quelle que soit l'étiquette politique de notre mère, que sais-je encore, prions. Prions. La critique est facile, L'art est difficile. Le monde passe son temps à critiquer. L'Église devrait davantage être libérée de cet esprit du monde pour prier. Amen. Les heures passées à scruter les informations, les commentaires qui ne sont pas toujours édifiants, seraient tellement plus profitables si nous les passions dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, après avoir entendu et réentendu des choses peu édifiantes, nous ne sommes pas disposés ensuite à nous rapprocher du Seigneur. Amen. Alors Paul dit, avant toute chose, priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière souvent la contestation? C'est la jalousie. Mais nous ne sommes pas jaloux. Hein. Nous ne cherchons vraiment pas à être députés ou quoi que ce soit. Je suis intimement convaincu que l'Église ne doit pas se mêler de politique. Nous ne cherchons pas à être reconnus et élevés. Mais par contre, dans un esprit de reconnaissance, nous prions pour que Dieu les aide. N'est-il pas écrit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel, il l'incline où il veut. Vous savez, quelles que soient les personnes qui décident, au fond, nous croyons que c'est Dieu qui décide et qui répond à nos prières. Alléluia, Dieu soit béni. Priez donc pour la paix, c'est enseigné dans l'Écriture, pour Jérusalem, pour l'Église et pour le monde, même si nous ne sommes pas du monde, nous prions pour lui. Je pense qu'il ne faut pas que prier. Je vous propose maintenant de lire dans le livre des Juges le fait qu'il faille agir aussi pour la paix. Juges chapitre 8, versets 1 à 3. Juges chapitre 8. Versets 1 à 3. Juges chapitre 8, verset 1er. Et nous redécouvrirons une qualité méconnue de Gédéon. Juges chapitre 8, verset 1er. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon: que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit: qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, et les 300 hommes qui étaient avec lui fatigués, mais poursuivant toujours. Amen. Dans ce passage, nous voyons cette qualité de Gédéon qui a consisté à apaiser. Apaiser. Une violente colère, mue par la jalousie. Malheureusement, Israël a souvent eu des dissensions. Remarquez avec moi qu'il s'agit ici des hommes d'Éphraïm. Et vous savez que sous le fils de Salomon, Roboam, eh bien, il y aura cette division, ce schisme. Et c'est tout le royaume du nord, qu'on appellera plus tard Éphraïm, dans sa globalité, qui va se scindre des autres tribus. Donc, il y a toujours eu cette tendance en Israël, malheureusement, à la dissension. Mais Gédéon a été un homme de paix. C'était un jour de victoire. Et quelle belle victoire! Seulement là, certains étaient mécontents de ne pas avoir pleinement participé à cette bataille. Vous savez, ce qui compte, c'est que Dieu agisse. Amen. qu'on y participe beaucoup, qu'on y participe peu, qu'on soit là, qu'on soit pas là, mais que Dieu soit béni pour ce qu'il fait. Amen. Les Éphraïmites n'étaient pas contents parce qu'ils n'étaient pas suffisamment considérés à leurs yeux. Mais vraiment, crucifions la chair. N'essayons pas d'avoir un rôle, d'être reconnus, mais pourvu que Dieu nous accorde la victoire. Il peut se passer des fois, cela m'est arrivé, où j'ai pour exceptionnellement n'ai pas pu aller à une réunion et Dieu avait béni cette réunion. Alors des fois on se dit, ah c'est dommage, je n'étais pas là. Mais que Dieu soit béni pour ce qu'il fait. Alléluia. Parfois, peut-être on peut se sentir mis de côté, comme les Éphraïmites. Se sentir mis de côté. Mais Gédéon a eu cette sagesse de dire, écoutez, vous avez attrapé les chefs. Vous avez, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai rien fait. C'est pas grand-chose. Dieu vous a donné les chefs. Bon, quelle sagesse et humilité pour apaiser. Amen. Ayons des paroles d'apaisement. Valorisons les autres. C'est ce que Gédéon a fait. Gédéon a valorisé la prise des Éphraïmites. Il n'a pas commencé à dire, et il aurait pu, parce que quand on connaît mieux le contexte, il aurait pu dire, bah, vous savez les Éphraïmites, hein, si je vous avais attendu, on en serait encore. Non, non. Il n'a pas mis de l'huile sur le feu. Il leur a dit plutôt, mais non, il ne faut pas voir les choses comme ça. C'est vrai, Dieu nous a bénis, mais Dieu vous a bénis aussi. Et au fond, vous avez fait la meilleure prise. Alléluia. Pour agir en faveur de la paix, nous devons avoir des qualités d'humilité, de sagesse, certainement. Ce n'est pas si facile que cela. Alors, j'ai pensé en parallèle lire avec vous le Proverbe 26, versets 20 à 22. Proverbe 26, versets 20 à 22. Proverbe 26, verset 20. Alors, c'est un proverbe si connu qu'il est passé dans nos proverbes populaires en France, hein. Proverbe 26, alors verset 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Donc le rapporteur, c'est celui qui ramène le bois dans le contexte. Vous avez compris? Il y a l'image et après la réalité. Le rapporteur, c'est celui qui ramène les bûches. Et les fautes de bois, le feu s'éteint. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Alors, verset 21, pardon. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Les paroles du rapporteur, ah, c'est terrible cela, sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Amen. C'est une parole terrible parce que c'est bon les friandises. Et l'Écriture dit ici sans équivoque qu'on est tellement mauvais et méchant qu'on se régale d'entendre des paroles rapportées. Et combien nous sommes humiliés de lire cette parole. Notre oreille est malade. Nous avons besoin que le Seigneur la guérisse. Et derrière l'oreille, c'est notre cœur. Alors, c'est vrai, l'Écriture le dit, selon ce que nous sommes naturellement, c'est un régal, les paroles rapportées. Mais, faute de bois, le feu s'éteint. Alors, que le Seigneur change notre nature, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire tous ses efforts pour éviter d'écouter aux portes, mais cela va plus loin, cela concerne notre tendance à aimer les bonbons, les friandises. Vous savez que trop manger de friandises nuit à la santé. Alors, je sais que sur nos lieux de travail, c'est incroyable la rapidité avec laquelle les choses se répandent. En très peu de temps, et elles se répandent souvent mal. Apprenons à se retirer de certaines conversations. C'est vrai, parfois le chrétien souffrira la solitude. C'est vrai. Parce que très vite, les gens sauront qu'ils ne pourront pas se régaler avec vous de mauvais propos. Et inévitablement, parfois, le chrétien dans le monde souffrira un peu de solitude. Mais vous savez, il vaut mieux se préserver des souillures du monde. Amen. Et par contre, continuez de parler avec bienveillance, de discuter. Nous ne devons pas nous isoler des gens du monde. Mais par contre, quand leurs propos sont polluants, et même si ça peut être un régal, parce que vous savez, ça nous flatte d'être au courant de la gazette de notre entreprise. On est comme flatté, honoré d'être au fait des dernières mauvaises nouvelles. Et nous nous sentons importants, parce que à ceux que l'on méprise, on ne leur dit rien. Mais rendez-vous compte, c'est vers vous que l'on vient recueillir toutes les doléances. Vous pourriez peut-être faire un délégué syndical hors pair. Mais au fond, notre âme parfois est souillée. Alors, apprenons, comme Gédéon, à être dans l'apaisement. C'est vrai que les gens sont un peu déçus. C'est vrai que les gens, quand ils viennent avec de mauvais propos, ils aiment beaucoup que vous les souteniez et que vous leur dites « C'est vrai !» Et si vous pouvez encore en plus en rajouter « Mais en plus, tu sais pas !» Alors, les gens vont être très contents et vous allez vous faire beaucoup d'amis. Mais nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. À ceux qui viennent, plutôt comme Gédéon, essayez de leur montrer une autre version des choses. Alléluia. Lisons maintenant dans 1 Roi, chapitre 15, verset 12. Alors, c'est Salomon, le règne de la paix. 1 Roi, chapitre 5, verset 12. 1 Roi, 5, 12. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis. Et regardez comme une conséquence immédiate ce qui est dit ici. Et, hein, puisque l'Éternel donna la sagesse à Salomon, et il y eut paix entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance ensemble. Amen. La sagesse de Salomon lui a permis de tisser des liens avec ses voisins. Agir pour la paix, c'est aussi réussir à s'entendre, parfois même avec des païens. Hiram, roi de Tyr, était un païen. Et savez-vous qu'il a, pour beaucoup, participé à la construction du temple ? C'est Hiram, le fournisseur officiel de tous les bois nécessaires pour la construction du temple. Et même, il a fourni des ouvriers qualifiés. En d'autres termes, cette alliance a été bénéfique pour la maison de Dieu. Alors là, il faut faire attention. La parole de Dieu nous demande de nous séparer du monde, de nous séparer de la mentalité du monde, des combines du monde, des souillures du monde. Il faut là aucune alliance, aucun compromis. Mais attention, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas du monde que nous ne pouvons pas vivre dans le monde. Et en vivant dans le monde, je crois qu'il est plus sage sur votre lieu de travail de faire équipe. De faire équipe. De faire équipe avec des païens. Alors, bien sûr, ils ne parleront pas comme nous. Ils ne penseront pas comme nous. Hiram est resté avec ses idoles. Hiram est resté roi de Tyr. Mais Salomon, par sa sagesse, le pacifique, a pu faire une alliance gagnante pour le peuple de Dieu. Alors ne soyons pas peut-être excessifs, séparons-nous du monde, mais soyons pacifiques pour permettre de travailler avec des non-croyants, mais qui pourra nous apporter de l'aide, parce que vous savez, au fond, et nous allons lire dans l'Ecclésiaste quelques instants, on n'arrive pas tout seul. Salomon avait compris ça, tout seul, il n'y arriverait pas. On le lit dans Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 à 12. Ecclésiaste, chapitre 4. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9. Alors, ce sont les versets 9 à 12, mais si vous le voulez, on va quand même lire le verset 8, parce que là, le verset 8 parle d'un homme seul, et à partir du verset 9, ben, la sagesse de Dieu parle plutôt d'être à plusieurs. Mais verset 8, Ecclésiaste, chapitre 4, verset 8. « Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils, ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin. Et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance ? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. » Vous savez, quand on est tout seul, on est vite débordé. C'est ce que ce passage nous enseigne. Il y a un homme seul, personne près de lui, aucun associé. Et quel est le résultat ? Son travail, il n'y a pas de fin. Il ne voit jamais la fin de son boulot. Mais tout ça, c'est pourquoi ? C'est une vanité. Si nous essayons de faire tout seul dans la vie, alors nous tendrons nous-mêmes un piège, on va être suroccupé, surmené. Et c'est un petit peu vain de faire que de vivre pour travailler. Savez-vous faire confiance à quelqu'un d'autre ? Savez-vous sous-traiter ? Si vous ne mesurez pas le besoin des autres, alors vous aurez du mal à faire des alliances comme Salomon a pu en faire. Versets 9 à 12, je le disais tout à l'heure, lisons-le. 2, c'est mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Amen. Quelle évidence, mais quelle sagesse, hein, avoir un second, avoir quelqu'un à ses côtés. Eh oui, parfois Dieu permet la maladie ou l'accident pour se rendre compte qu'on est tout seul. D'autres fois, il attend l'épuisement pour que l'on puisse se dire « j'aurai quand même peut-être besoin de quelqu'un ». Et ce quelqu'un n'est pas forcément un chrétien. Ce quelqu'un peut être un inconverti. Vous pouvez recevoir le secours de Dieu par un collaborateur non chrétien, mais qui fera bien son travail et qui pourra vous seconder dans votre entreprise et de vivre en bonne harmonie avec lui, comme Salomon a vécu en bonne harmonie, avec Hiram. Deux valent mieux qu'un, ils dorment dans le même lit. Le couple, c'est mieux. Alors, vivons en paix dans nos couples. Ne nous faisons pas la guerre. Vivons en paix parce que tout seul, c'est moins bien. Peut-être quelqu'un ce matin se dit, c'est avec lui que c'est moins bien. C'est avec elle que c'est moins bien. Et c'est faux. C'est notre orgueil qui nous fait croire que nous sommes suffisants tout seuls, que nous n'avons pas besoin des autres. Et vous savez, quand on pense qu'on est autosuffisant, on manque peut-être de cette souplesse pour vivre en paix avec tout le monde. Nous avons bien besoin, bien aimé, de prier pour la paix et d'agir pour la paix. Allez, nous allons lire encore deux passages. Romains chapitre 12, versets 14 à 21, qui traite de cela. Romains 12, versets 14 à 21. Romains 12, verset 14, il est dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire de favoritisme, il faut avoir le même sentiment pour chacun. Ça, c'est cette phrase-là est tout un programme. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, sous-entendu, me semble-t-il, de Dieu. Car il est écrit, c'est le reste du verset confirme que c'est bien la colère de Dieu, car il est écrit, c'est Dieu qui parle, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. » Avez-vous un problème avec votre voisin ? Essayez d'appliquer ce que nous venons de lire. Faites-lui du bien. Dites-lui bonjour. Faites-lui un petit cadeau. Offrez-lui quelque chose. Alléluia. Faut-il aller tout de suite au commissariat, porter plainte ? Faut-il tout de suite attaquer ? Vous savez, dans le monde, parfois on pense ça, il faut attaquer le premier. Dans le monde, il faut taper le premier. Ça, c'est l'esprit du monde. Nous, nous préférons nous confier en Dieu et le laisser agir. Parce que lui est juste, nous ne le sommes pas comme lui. Nous pensons que nous sommes justes, nous pensons que nous avons raison, que notre cause est juste. Mais Dieu seul est vraiment juste. Alors, laissez agir sa colère. Parce que lui n'agira pas comme nous. Alléluia. C'est à lui qu'appartient la vengeance et la rétribution. Ce n'est pas à nous à juger les hommes, c'est Dieu qui les jugera. Amen. Et pour vivre dans la paix, eh bien, il faut aller jusque-là. Et vivre dans la paix, c'est avoir le même sentiment pour tout le monde. Ne pas aimer quelqu'un. Et vous savez, il y a des gens, tout de suite, ça passe. Et si ça passe, alors là, ils sont formidables. Mais si ça passe pas, ça passe vraiment pas. Ça, c'est charnel. C'est notre feeling personnel. Et bien souvent, sans que nous nous en rendons compte, nous aimons tout de suite les gens à cause parfois de ressemblances ou d'affinités que nous avons avec eux. Ce n'est pas vraiment eux que nous aimons, c'est nous que nous aimons au travers d'eux. La parole de Dieu dit un même sentiment pour tout le monde. C'est ça aussi vivre dans la paix. C'est vouloir donner l'égalité à chacun d'entre nous et de ceux que nous côtoyons. Alors, dernier passage sur cela, Matthieu chapitre 10, verset 34, parce qu'il faut quand même faire attention de ne pas aller trop loin. Toute vérité a sa contrepartie. Matthieu chapitre 10, verset 34. Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Amen. Alors, il faut être équilibré. Après ce message, peut-être, je ne voudrais pas, en fait, qu'un croyant, une croyante, reparte de ce culte et se dise « c'est pas normal, le frère a prêché sur la paix avec Dieu, et être pacifique dans la vie, et moi, j'ai sur le dos des incroyants qui me haient, qui me détestent, et actuellement, ça se passe mal dans ma vie. » Alors, Jésus a aussi enseigné qu'à cause de notre foi, nous aurions à subir de l'hostilité. Ce dont je parle ce matin, c'est que nous ne soyons pas à l'initiative de la guerre, de la haine ou d'autre chose. Mais si vous avez prié, vous continuez d'aimer les personnes, mais que celles-ci s'acharnent et sont décidées de vous faire la misère, vous n'en êtes pas responsable. C'est même un honneur et très bon signe pour vous. C'est parce que vous êtes au Seigneur que l'adversaire essaye de vous détruire, de vous déstabiliser. C'est lui qui vous fait la guerre. Plus que les gens, de telle façon qu'il nous faut continuer de les aimer, parce que notre combat n'est pas contre les hommes, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Alors voilà, être pacifique, avoir de la sagesse, pour comprendre que dans la vie on ne réussit pas tout seul, il faut entretenir de bonnes relations, même avec les païens, tant que faire se peut, et puis cela glorifie Dieu, ça l'honore. Mais parfois, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre. Parfois, Dieu permet des temps de guerre dans nos vies et dans lesquels il faudra tenir ferme dans la foi et l'amour et jusqu'à ce que l'ennemi soit chassé. Ce sera une guerre en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Alors, on termine avec l'exemple d'Asa. Ce sera ma conclusion. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 14. 2 Chroniques, chapitre 14, parce que je crois que c'est la clé, au fond, comment avoir la paix. 2 Chroniques, chapitre 14, verset 1er. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Amen. Vous savez, pour que la paix ait lieu en Israël, il fallait tout simplement que son roi et le peuple cherchent le Seigneur. C'est comme un triangle. Le sommet, ce serait Dieu. Et de chaque extrémité, ce serait l'un et l'autre. Ben, plus l'un et l'autre va se rapprocher de Dieu, plus l'un et l'autre vont se rapprocher d'eux-mêmes. La paix ne se fabrique pas, la paix ne se produit pas par des efforts humains. La paix, c'est le Dieu de paix qui la donne à ceux qui cherchent sa face. Et ce dont nous avons besoin, bien-aimés, c'est de chercher le Seigneur de tout notre cœur. Et de ne pas s'occuper de vos problèmes avant tout. Vous savez, quand on n'est plus dans cette paix de Dieu, on s'éloigne de Dieu, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on n'est plus pacifique, quand on n'est plus paisible, on s'éloigne de Dieu. Pour retrouver un esprit pacifique, pour retrouver la paix, il faut se rapprocher du Seigneur. Amen. Il y a vraiment des moments, et c'est, je crois, notre besoin, le mien en tout cas, de chercher le Seigneur à la maison, d'arrêter les pensées, les bruits, les soucis. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin que tu me parles quand je lis ta parole. J'ai besoin dans ta maison de me sentir mieux. Alléluia. Cherchons le Seigneur et le royaume sera plein de paix. Amen. Prions.